Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Alors, la ponctualité étant la politesse des rois, nous allons commencer à l'heure, c'est-à-dire maintenant, pour parler pendant une petite heure ensemble de politesse en science-fiction, de politesse et peut-être aussi, j'espère, d'impolitesse, de bienséance et de malséance, pourquoi pas. Alors, je vous vois, disent les Navis d'Avatar. Les Fremen de Dune crachent par terre pour signifier leur salut aux invités de Marc, dans un contexte où le moindre crachat est une ressource précieuse. Dans la réalité consensuelle occidentale, on serre la main droite, celle qui est potentiellement armée. C'est donc un geste de paix. Comment la science-fiction traite-t-elle de ces petits gestes et de ces phrases qui désarment ou accueillent? Pour en parler, j'ai avec moi Jean Barret. Jean, vous êtes né en 1971, vous êtes à la fois nihiliste, culturiste et avocat au barreau de Paris. Après votre trilogie remarquée Trademark, sélectionnée plusieurs fois par le Grand Prix de l'Imaginaire, vous vous êtes associé à Hugo Balagamba pour Le Monde de Julia, roman qui mêle fables post-apocalyptiques et philosophiques, véritable voyage initiatique sur un sujet d'une actualité démocratique brûlante, le droit et la justice. Loujane, née trop tôt à votre goût, vous auriez rêvé vivre au XIIe siècle. 22e siècle, oui, ça change tout. Méga optimiste, vous avez foi en l'humanité, vous êtes persuadé que l'avenir sera meilleur. Autrice française de science-fiction, vous terminez un triptyque sur les ressources clés, le temps, l'amour et le corps. Le premier volet, Sale temps, est paru aux éditions Rivière Blanche, a connu un franc succès. Le deuxième, La machine à aimer, vient de paraître aux éditions Critique et vous venez le présenter aux Utopiales. Le troisième roman est en cours d'écriture. Vous avez également écrit plusieurs nouvelles. Corentin Simon, vous faites partie d'un collectif de quatre jeunes auteurs, le Bombix Mori Collectif. Vous vous êtes rencontrés à Lyon au cours de vos études littéraires et vous écrivez ensemble. Depuis 2015, vous vous attachez à construire brique après brique, texte après texte, le monde de Léria au fil de courts récits et de novellas qui explorent différentes régions, époques et histoire de cet univers fictionnel battu par les marées vertes. La trame est le premier récit publié de cet ambitieux projet. Alors, la politesse et l'impolitesse, les codes, jouer avec les codes, soit pour les subvertir, soit pour inventer de nouveaux codes, ça fait partie de l'essence même de la science-fiction. On peut penser au célèbre salut vulcain du docteur Spock, geste popularisé par Leonard Nimoy dans la série originale Star Trek, un geste fictif qui a droit même à son article dans l'encyclopédie Wikipédia, ce qui est peut-être l'élément de communication non-verbale le plus célèbre de la science-fiction. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est dans vos souvenirs de lecture de science-fiction ou de cinéma, est-ce que vous avez un exemple frappant d'un jeu sur les codes, les gestes? Moi, personnellement, je me souviens qu'enfant, alors c'est pas tout à fait un film de science-fiction, mais quand j'avais vu Ben-Hur, j'avais été très frappé par une scène où le héros, à la fin d'un repas, doit émettre un rot pour signifier qu'il a bien mangé et il a toutes les difficultés du monde à roter à la fin du repas parce que ça ne fait pas partie de son propre code. En science-fiction, est-ce qu'il y a des situations comme ça où vous avez rencontré des gestes ou des paroles inventées qui vous ont frappé?
Mais il y a évidemment Que la force soit avec toi de Star Wars. Alors, c'est pas vraiment de la science-fiction, on va dire, c'est de la fantasy, mais...
Alors, c'est de la science-fiction.
Voilà. Mais bon, mais ça, c'est tellement passé dans le... C'est tellement passé dans le langage courant, en fait, on arrive même à le dire pour tout et n'importe quoi.
Jean?
Oui, moi, le souvenir le plus fort, c'est effectivement le salut vulcain. Puisque Star Trek, je l'ai découvert, enfin l'original série, assez jeune. Donc c'était vraiment une façon significative de donner un corps à cet univers-là par ce geste singulier. Après, un autre souvenir qui pourrait me revenir serait plutôt lié, là aussi pas forcément à la SF, mais aux animés du temps béni du Club Dorothée. et qui me mettait face à des situations où je trouvais que les personnages se comportaient grossièrement. Par exemple, en faisant des bruits de bouche, en aspirant des nouilles. J'ai appris après qu'en définitive, ce n'était pas du tout impoli, de ce que j'ai compris, je ne suis pas spécialiste, mais dans la société japonaise, alors que chez nous, ça serait vu plutôt comme une impolitesse que de faire des grosses lurpes en mangeant. Et ça, c'est un souvenir. Voilà. Alors, c'est pas à proprement parler de la SF, mais niveau politesse ou impolitesse, des souvenirs qui me revient.
Corentin ?
Alors, j'ai pas de souvenirs particuliers qui me reviennent comme ça à poil pour point, mais ce que tu dis effectivement sur cette différence culturelle en fait de type de politesse au Japon,
on peut aussi. On peut se tutoyer, ça reste poli.
Oui, très bien, faisons ça. sur cette différence culturelle de politesse, justement, me ramène à la question des Fremen, le fait de cracher par terre. Je pense que de manière relativement universelle, c'est pas censé être un signe de respect. Et du coup. Je trouve ça intéressant que la politesse soit socialement et culturellement marquée à chaque fois, avec justement une série de codes. C'est-à-dire qu'il y a la question de la prise en compte d'autrui et de ce que ça permet de faire, mais ça dit aussi quelque chose de la société qui les pratique à chaque fois.
Alors, petite parenthèse sur le sujet du crachat à terre. Je viens du Sud, je viens de Marseille, je suis né, j'ai vécu 30 ans là-bas. Et cracher par terre, ça peut être pas forcément un signe d'irrespect ou d'énervement, etc. Ça peut être un espèce de réflexe plus ou moins pour conjurer le sort. Donc c'est pas ce qui est marrant, et c'est ça qui fait toutes les différences culturelles sur même des choses comme ça qui nous paraissent un peu universellement impolies. Pas forcément, et même dans nos cultures, je veux dire, actuelles. Voilà. Pas forcément. Après, dans certains cas, dans un certain contexte, oui, c'est plutôt un signe d'agressivité, mais pas forcément.
Je crois, pour compléter brièvement sur le sujet du crachat, que le fait que ça soit un geste considéré comme impoli et même interdit, c'est relativement récent. Il me semble qu'au 19e siècle, on a légiféré pour interdire le crachat par terre dans la rue pour ralentir la propagation d'un certain nombre de maladies. C'est donc assez récent. Si on l'a interdit, c'est parce que c'était extrêmement courant. Alors, je vais poser une deuxième question qui s'adresse plus directement à vous trois en tant qu'autrice et auteur. Dans votre travail de création, est-ce que vous avez déjà écrit un texte ou des textes dans lesquels vous êtes amusé à inventer des codes, des phrases, des gestes de politesse ou d'impolitesse, des codes de convenance inventés par vous de toutes pièces, ou confronter des personnages qui n'ont pas les mêmes codes ou ne les maîtrisent pas de la même manière ?
Je peux commencer à parler du coup un peu de la trame. Donc notre récit, donc je le disais tout à l'heure, qui est une utopie à la Volt, est une suit en fait donc dans ce monde. On parlait tout à l'heure des marées vertes en deux mots simplement. Dans un monde qui est très cataclysmique et où les humains sont plutôt regroupés dans des cités-états qui sont protégés de ces marées, on suit un peuple nomade qui lui va dans la catastrophe, dans les marées vertes, sont les brusques poussées végétales, et va vivre en fait des fruits de ces marées. Et donc il y a une opposition qui est assez forte entre ces civilisations humaines assez établies en cité-état d'un côté, qui rappelleraient un peu nos sociétés, et cette communauté nomade assez anarchiste en fait, sans maître, sans carte, sans chef spécifique. Ce qui était intéressant là-dessus, c'est que la question de la politesse dans cette société-là est traité sur, sur le plan plutôt de la solidarité instinctive qu'il y a entre ses membres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne arrive à marcher, à rejoindre les rangs de la trame et à rester avec eux, il y a une prise en compte de l'autre qui fait qu'on va l'aider à réparer son équipement, à trouver de la nourriture, à trouver son chemin par moment, et tout ça de manière assez organique. Donc on n'a pas vraiment du coup de codification, même justement cette absence en fait, de ritualité dans la politesse fait que les personnages peuvent se salpaguer de manière un peu brusque, qu'il y a une forme de vulgarité amicale quoi, qui se détache parfois des rapports. Mais du coup, qui pourrait être aussi une autre forme de la politesse, dans la mesure où c'est une prise en compte de ces nouveaux arrivants et de cette manière de faire. Après, restent les liens du coup, entre ce peuple nomade et les sédentaires, qui pour le coup sont tissés d'incompréhension. C'est-à-dire que pour les uns, il y a une folie à rester sur place et à ne rien faire, donc ils les appellent les sédentaires. Il y a un mépris qui se crée par rapport à ça. Pour les autres, des gens qui bourlinguent dans la marée, dans les endroits où il n'y a pratiquement que la mort, c'est complètement impensable. Et on a en fait simplement quelques personnages qui proviennent de ces cités-états et sont allés ensuite dans la trame et qui permettent de faire le lien et parfois en fait de traduire ces différences culturelles qu'il peut y avoir entre ces différents peuples.
Loujane, dans votre trilogie, est-ce qu'il y a des exemples
Alors justement, moi j'ai utilisé la non-politesse pour marquer l'appartenance ou non au genre humain. Alors dans mon livre, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des Néandertals, les plus intelligents. Après, il y a des sapiens, parce qu'on a recréé des Néandertals. Après, il y a des robots intelligents programmés pour aimer. Après, il y a des robots débiles. Et ensuite, il y a des objets connectés. Donc il y a toute une hiérarchie en fait, d'êtres vivants, entre guillemets. Et n'utilise la politesse, finalement, que les robots hybrides intelligents, les sapiens et les Néandertals. N'utilise pas la politesse, les robots débiles et les objets connectés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si on adopte un code de politesse, c'est qu'on est en mode de société, en mode humain, en humanité. Et j'ai voulu que les robots en aient, justement, les robots intelligents en aient, pour poser la question, qu'est-ce que l'humain? Et je crois que c'est Bergson qui disait, la politesse est la grâce de l'esprit. Donc, si on a de la politesse, on a de l'esprit.
Voilà. Moi, j'ai un peu peur de répondre à cette question. Parce que
ça m'intéresse.
Parce que dans la trilogie qui est parue aux éditions Le Bélial, le tome 2 qui s'appelle le VTM, met en scène une société dans laquelle il y a une forme de politesse très particulière. L'idée... Quand on s'amuse à réfléchir à un univers de science-fiction, bon, il y a évidemment ce qu'on veut dire, le thème, l'histoire, etc. Et puis il y a ce qui, comme on disait tout à l'heure, donne corps à cet univers, comment les gens sont habillés, comment est-ce qu'ils se dénomment, est-ce qu'ils ont des prénoms ou que des noms, et si oui, comment ils sont structurés. Et puis aussi donc, la façon dont ils ont d'interagir entre eux, y compris donc, la politesse. Dans VTM, je voulais mettre en scène une société infantilisée par le fait que des algorithmes dirigent cette société. Donc les humains sont devenus très dépendants et à nouveau infantilisés. Donc tant dans leur façon de s'appeler que dans leur façon de s'exprimer entre eux, j'ai mis au point quelques façons de parler particulière. Quelques références à des termes informatiques, parce que c'est une société aussi extrêmement dépendante de sa structure informatique. Donc des choses comme salut, ça clique, oui, ça clique, ou bien est-ce que ça rame, non, ça rome, des choses comme ça. Et puis, pour aller plus loin dans l'infantilisation et la perte un petit peu aussi, justement, de repères ou de valeurs comme on veut, il y a une phrase qui revient souvent, c'est « à plus, on se suce ». Et cette façon de mettre en scène le rapport à la... c'est pas une question de rapport à la sexualité en tant que telle, mais disons à la façon de gérer ça, et nous paraîtrait, je pense, très impoli dans nos sociétés, en dépit de la rime très riche que vous entendez, et un détournement de « à plus dans le bus » ou des choses comme ça. Voilà, donc « à plus en sus », c'est très récurrent dans le roman, et ça permet, je l'espère en tout cas, au lecteur d'avoir un impact sur le niveau de cette société.
Mais ça, c'est des expressions que tous les personnages emploient pour s'adresser les uns aux autres,
oui.
Ou est-ce qu'il y a différentes classes ou différentes...
Non, cet univers-là, tout le monde est à égalité. Oui, c'est une société dans laquelle il n'y a pas vraiment de lien ni de hiérarchie, et y compris de différenciation, même homme-femme, ou de hiérarchie, ou de lien homme-femme. C'est une société... je dirais totalement déstructuré là-dessus, sur ces points-là. Donc, ça se dit entre personnes du même sexe ou entre personnes de sexe différent, c'est gentiment accepté par tout le monde. Silence.
Non, mais c'est intéressant, c'est inattendu. Vous, quand vous faites ça, c'est...
Je comprends.
quand vous inventez ces expressions, vous le faites parce que ça vous amuse. Vous le faites parce que vous avez envie de provoquer un peu le lecteur ou votre éditeur ou
provoquer l'éditeur, pas trop non plus.
D'où vient l'idée et qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
C'est compliqué parce que c'est pas si réfléchi que ça. Alors d'abord, bien sûr, les deux éléments y sont. Faut que ça m'amuse parce que quand même. Quand on écrit, faut s'amuser à écrire, sinon, ce serait plus compliqué pour moi en tout cas si je m'y amusais pas. Donc, faut que ça m'amuse. Il y a le besoin aussi de pas forcément de choquer pour le plaisir de choquer du tout, mais d'amener un petit électrochoc, oui, pour le lecteur, à nouveau, afin qu'il ait immédiatement l'impact de ce que c'est que cette société. Le protagoniste principal, par exemple, s'appelle Sylvester Staline. Bon, ils ont tous des jeux de mots débiles comme ça pour s'identifier. Parce qu'à nouveau, c'est une façon de traduire l'infantilisation de cette société. Et puis, c'est une façon aussi de dire que nos pseudos, qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux plus malins que ce genre de jeux de mots-là, finissent par avoir peut-être plus d'importance que notre état civil. Mais tout ça n'est pas forcément non plus si construit. Je ne m'arrête pas en me disant, qu'est-ce que... Non, ça vient comme ça vient, mais avec, en fond, cette idée de... Toujours de traduire le rapport au temps également. Comment est-ce qu'on a toujours des heures et des jours et des mois? Est-ce qu'on a toujours le même calendrier? Ces questions-là viennent assez rapidement, je pense en tout cas quand on veut réfléchir à un univers de science-fiction. Et oui, après, faut que ça m'amuse et puis voilà que ça fasse un petit électrochoc. Mais c'est compliqué sans que ce soit non plus forcément à tout prix mon objectif.
C'est intéressant parce qu'on voit que le code de convenance, la politesse, elle repose sur des choses qui sont admises comme en faisant partie et puis des choses qui en sont exclues, c'est-à-dire ce qui relève de l'interdit. Il y a beaucoup de la politesse, c'est aussi beaucoup de choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas. Donc subvertir un peu ça, qu'on le veuille ou non, et surtout si on le veut, on arrive très vite à quelque chose qui ressemble à de la provocation, c'est-à-dire qu'on va rendre poli quelque chose qui ne l'est pas dans l'univers du lecteur. On voit dans l'actualité du monde réel actuel, c'est des sujets qui viennent quelquefois, y compris dans le débat public et dans même les questions qui se posent aux législateurs, comme on dit, c'est-à-dire définir, par exemple, ce que c'est qu'une tenue décente dans l'espace public. Ça, c'est un sujet que je trouve toujours très surprenant et intéressant. Est-ce que l'avenir, c'est de légiférer sur ce que c'est que la politesse et est-ce que c'est possible d'écrire dans la loi, bon alors maintenant ça suffit, les gens il faut qu'ils soient habillés au minimum comme ci et comme ça. Bon, la question se pose aussi dans le monde scolaire.
Après la politesse déjà c'est la codification du savoir-vivre, donc c'est déjà alors, une première
code,
codification.
Il est écrit ou il est non écrit? Est-ce qu'il faut essayer de l'écrire? Est-ce que c'est possible?
Alors, après il est subjectif parce que le savoir-vivre comme on l'a dit dépend complètement des cultures, des époques et tout. Après, je pense que plus on va aller dans la codification, la légifération, plus on se rapproche de la dictature, parce qu'en fait, quelque part, les sociétés peut-être les plus polies, les plus codifiées, seront les plus rigides à la fin. Si on reprend encore Star Wars avec lequel j'ai introduit, Dark Vador, on le vouvoie, on fait des révérences. On se présente à lui en faisant des saluts militaires hyper codifiés, alors que les rebelles, eux, ils peuvent être plus cool. Donc pour moi, plus on va aller dans une politesse forte et plus on sera dans un régime fort.
Jean, qu'est-ce qu'en pense le juriste ?
Alors oui, c'est une bonne question. Légiférer, ça implique systématiquement une sanction, puisque pour que la loi soit une loi, il faut qu'il y ait une sanction, sinon c'est autre chose, une norme. autre, ça peut être la morale, ce qu'on veut, un référent culturel, etc. Donc ça sous-entendrait, si on voulait légiférer sur la politesse, qu'on sanctionne le contrevenant. Et si, théoriquement, on sanctionne un contrevenant, c'est parce qu'on sous-entend qu'il y a un préjudice qui est causé à quelqu'un, ou au corps social dans son ensemble, ou à un individu, du fait de ce manquement. Donc ça sous-entendrait que ne pas être poli cause un préjudice à quelqu'un. Ce qui est, dans un corps social, pourquoi pas, mais dans nos sociétés, c'est difficile de dire que même si je rencontre quelqu'un de très mal poli, ça me cause un préjudice au point que je demande à l'État et à la force publique d'intervenir pour le sanctionner. Donc pour moi, la problématique, elle serait plus là. Alors effectivement, comme tu le disais, ça, en plus, ça nous amène vers une idée un peu dictatoriale, parce qu'en dehors de cette question de sanction, il y a l'idée de réguler l'individu, le comportement des individus, au point, jusqu'au point de lui interdire de dire ou de faire ce qu'on fait, hein, ce qui n'est pas de la dictature. Il est interdit de dire certaines choses dans l'espace public, bien sûr. Et c'est sans doute pas si mal, parce qu'on ne peut pas non plus tout dire. Toute liberté a quand même ses limites. Et notamment, en général, les limites, c'est quand même, on revient à la notion de préjudice, c'est que franchir cette ligne rouge cause un dommage à quelqu'un. Voilà. Alors la politesse, normalement, non. C'est à nouveau, ça peut énerver, c'est très désagréable d'avoir des gens impolis, mais c'est pas au point de. Pas à ce point-là. Donc pour moi, le champ de la politesse ne doit pas rentrer dans le pouvoir d'action du législateur, pour cette principale raison-là.
Oui, et puis je pense qu'en plus, y a quelque chose qui se recoupe pas tout à fait entre, d'un côté, la question de la morale, qui pour le coup correspond à un ordre spécifique, social, et à des perceptions particulières, et la politesse qui effectivement est une codification en soi, mais dont la principale utilité est un peu de lubrifier les rapports, quoi, simplement, et de se témoigner une simple marque de respect entre pairs. Quoi. Là où il me semble que la morale est plus garante de la défense d'un ordre particulier. Et justement, quand on commence à parler de choses qui vont vers une possible législation, on parle souvent de questions qui sont liées à la morale et pas à la politesse en tant que telle. Après, bon, la politesse est aussi un marqueur social, c'est-à-dire que le fait de maîtriser les codes, de savoir s'adresser de telle ou telle manière à tel ou tel endroit, c'est quelque chose qui ouvre des portes. On pourrait partir sur Bourdieu assez rapidement sur ces questions-là, mais nous n'avons qu'une heure.
Est-ce que la politesse, ça n'est pas aussi, à certains moments, un outil de domination ou de maintien de l'oppression ? Je pense à ce code de la société occidentale qui n'a pas totalement disparu, qu'on appelle la galanterie et qui est une fausse politesse et sans doute un vrai sexisme. Le langage, les gestes, sous prétexte de politesse, peuvent-ils aussi servir à entretenir une illusion de bienveillance ? Et qu'est-ce que la science-fiction peut nous dire de tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut en faire en science-fiction ? Ou est-ce que ce sont des questions que vous vous poseriez comme auteur ?
Non, ça fait un certain nombre de questions à la fois, mais je pense que il faudrait s'accorder sur une définition de la politesse, c'est-à-dire que c'est quand même il y a une dimension un peu protéiforme, un peu floue. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, il y a cette reconnaissance de l'autre, et simplement du fait de lui faire une place, de ne pas être dans la rugosité, de montrer patte blanche, en fait, simplement en termes de relations sociales. Mais c'est effectivement aussi un instrument de domination. Ou même, dans moindre mesure, la politesse doit s'apprendre et doit être forcée. Est-ce que tu te souviens du mot magique, dis merci, dis bonjour, etc. etc. Il y a un apprentissage qui est martelé aussi de ces éléments-là, parce qu'ils permettent justement dans le corps social. Mais oui, et il y a aussi des stratégies de condescendance qui font que des personnes peuvent se passer de politesse, ce qui peut être une dynamique. Après, la science-fiction a pas mal de choses à dire là-dessus. Effectivement, il y a des... je pense notamment à un bouquin que j'aime beaucoup qui est Un bonheur insoutenable, dira Lévin.
J'y pensais tout à l'heure.
Et donc, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, il faut le lire, c'est formidable. Et c'est un des vieux modèles de la dictature bienveillante. Et donc, du coup, où il y a une prise en compte de chacun, où chacun fait attention aux autres, où ils ont une espèce de séquence de conseils, de psy chaque semaine pour voir si tout le monde se porte au mieux, ils ont des traitements qui sont adaptés. Et c'est une espèce de logique où chacun à sa place peut être mis au bon endroit et tout va pour le mieux dans ce meilleur des mondes, finalement, quoi. Donc là, on est sur une codification extrême, intériorisée par les individus, et où du coup la sanction n'est pas immédiatement visible. Alors j'ose pas trop en dire parce que vraiment il faut lire Un bonheur insoutenable et c'est, voilà, c'est un livre à rebondissement. Mais...
Alors moi j'y pensais tout à l'heure à propos de A plus on sus. Parce que dans Un bonheur insoutenable, il y a aussi dans la dystopie qui est décrite au début du roman, une société où la sexualité est installée dans la vie quotidienne comme quelque chose de tout à fait décomplexé. Et là, il y a une provocation de la part de l'auteur qui nous met en face de choses qui sont considérées comme indécentes dans la vie de tous les jours qui est la nôtre. Et puis, à un moment donné, où le personnage s'échappe de cette dystopie et où il découvre une société de résistants et de gens qui vivent à l'extérieur, dans des conditions de vie qui ne sont pas du tout enviables, si ma mémoire est bonne, et où là, la bienveillance imposée par le régime n'existe plus, et donc il est confronté à de la violence, il est confronté à des choses qui sont incompréhensibles pour lui. Et je me souviens d'une phrase où le narrateur dit que ce personnage découvre un monde où haïr et se battre font partie du quotidien, mais où baiser était sale. Et ces moments où on s'aperçoit que ça fait partie des grandes qualités du roman, que la dystopie dont il s'est échappé, elle avait des bons côtés, et que le monde réel qu'il découvre, qui grosso modo est le nôtre, a des côtés absolument épouvantables, y compris dans son puritanisme. Donc moi, ouais, je plus sois, il faut lire Un bonheur insoutenable, surtout tous ceux qui se sont mortellement ennuyés en lisant Aldous Huxley et le meilleur des mondes, lisez Un bonheur insoutenable de Ira Levin, c'est l'antidote idéal. Là, je m'éloigne du sujet. Non, mais je vais reposer ma question. Est-ce que dans vos travaux d'auteur de science-fiction, il y a des moments où vous utiliser des codes qui régissent les rapports entre les humains, et notamment les humains qui sont différents, appartenant à des groupes différents ou à des peuples différents, et où ces codes servent soit à asseoir une domination, soit au contraire à fluidifier des rapports entre des groupes qui seraient opposés. Là, la politesse, c'est à entendre au sens large. Il y a un moment où ça devient aussi la diplomatie, la manière dont on va vers l'autre.
Ce qui est sûr, c'est que la politesse est un instrument du vivre ensemble, comme tu l'as dit, Corentin. Donc, comme tout instrument, on va pouvoir l'utiliser à bon escient ou mauvais escient. Notamment, tu reprenais ton exemple du sexisme. La politesse, ça peut être utilisé pour être sexiste, ou au contraire, pour ne pas l'être et être égalitaire. Donc tout va dépendre de l'intention, en fait, de l'utilisation de cet instrument, du code. Donc moi, pour ma part, comme je le disais au début, dans mon livre, j'ai considéré que quand on utilisait des codes de politesse, on signifiait l'appartenance à un groupe social et donc à l'humanité, et que si on n'utilisait pas de code de politesse, on n'était pas humain. J'ai fait cette différence-là. Et après, je n'ai pas utilisé la politesse comme une oppression particulière.
Moi non plus, pas en tant qu'outil d'oppression. D'autant que je ne sois pas certain qu'on puisse aller jusque-là. La politesse peut véhiculer une oppression. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, est-ce que c'est carrément un outil d'oppression ? Je ne sais pas. La politesse, c'est ce qui se fait par rapport à ce qui ne se fait pas. Normalement, ce n'est pas bien ou mal, c'est ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Et dans une société donnée, dans une société qui... reprenons l'exemple d'une société sexiste, ce qui se fait, c'est de se comporter d'une certaine manière envers les femmes. Mais est-ce que c'est un outil qui permet précisément d'aller dans ce sens-là et de renforcer ? Je ne sais pas. Ça, c'est peut-être plus le symptôme que la cause. Mais c'est lié forcément, bien sûr, puisque c'est la façon qu'on a qui se fait de s'adresser à quelqu'un d'autre. Donc forcément, c'est porteur de tout un tas de, je sais pas, d'idéologie, de tout ce qu'on veut. Et c'est avant tout un facteur de stabilité sociale. Voilà, on se dit, bon, on se comprend parce qu'on a ce démarrage de politesse, donc on se sent du même groupe social. Et évidemment, ça véhicule. Moi, ce qui m'intéresse dans la science-fiction, c'est plutôt ce que ça véhicule. Voilà. Plus que comme un outil, comme je disais tout à l'heure, dans VTM, pour moi, ça véhicule l'état de la société à ce moment-là du roman. Mais comme outil d'oppression, c'est marrant l'exemple, par exemple, de Darth Vader. Bon, tout le monde est plus ou moins très déférent à son égard. Il faut dire qu'il est quand même d'étrangler les gars à distance. Donc, en même temps, on a envie de...
Bon, ça aide à être poli.
Oui, ça donne envie. Mais je pense qu'il y a un truc comme ça. C'est-à-dire dans l'armée, même sans aller dans les armées fictives, dans l'armée, il y a un code de comportement pour, je ne sais pas, saluer son supérieur hiérarchique ou celui qui a un grade inférieur au sien. Bon, il y a une codification du salut et tout ça. Mais je ne sais pas si même dans l'armée, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un outil qui permet d'asseoir... c'est la traduction de cette hiérarchie très rigide, voilà, plus que l'outil qui permet de la maintenir.
Pour moi, la politesse, c'est plus un outil d'identification qu'un groupe va se choisir. Donc une codification du savoir-vivre particulier d'un groupe.
Du coup, ça peut servir à remettre quelqu'un.
Voilà, et donc en science-fiction, on décrit ça pour mieux expliquer ce qu'est le groupe, comment il fonctionne, ses valeurs, parce que c'est assez visuel en fait la politesse. Donc on va décrire les rites. Ça permettra de mieux comprendre comment fonctionne cette tribu, ce groupe social.
Je pense que c'est un outil, dans l'écriture, je veux dire, de caractérisation qui est extrêmement efficace. Typiquement, je parlais justement de ce rapport entre les nomades et les sédentaires dans la trame. Il y a une scène en fait, d'arrivée à un moment du peuple nomade dans une ville sédentaire, et on se rend compte que les nomades n'ont aucun des codes. Aucun. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils débarquent dans la ville n'importe comment, c'est jour de marché, ça devient une foire absolument gigantesque. Et de l'autre côté, on a la réserve un peu rentrée, choquée, entre parfois indignée ou admirative en fait, des sédentaires qui les voient passer. Et cette absence totale de code en fait, dans la trame crée l'espèce d'appel d'air de ce peuple et permet de la caractériser comme un peuple justement qui est très libre et qui n'est pas pris dans ce système. C'est-à-dire que nous, de notre côté, l'absence de politesse dessine en creux en fait, la liberté de ça. Donc ça a été un outil de caractérisation qui est intéressant. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi utile. Alors après, ça c'est que science-fiction ou pas, de toute façon, mais... L'envers de la politesse n'a pas forcément à être une agressivité. C'est-à-dire, je crois vraiment qu'il y a une vulgarité amicale qui est efficace et qui sert aussi à qualifier certaines relations très rapidement. Deux personnages qui se disent bon, bah, plus on se tue, par exemple, dans d'autres textes, ça joue immédiatement quelque chose. Quoi.
Ça va rester.
Mon Dieu.
Qu'as-tu fait
plus Du coup, pour être traduit en anglais, ça va faire comment ?
Oui, pour être traduit en anglais, oui. Il faut trouver une rime, c'est compliqué.
On en reparlera. En science-fiction, une des situations intéressantes qui se pose et qui va permettre d'élargir un tout petit peu, c'est aussi la question du premier contact. Comment on s'adresse à l'autre quand il est d'une civilisation inconnue, une forme de vie totalement inconnue qui vient vers nous, comment est-ce qu'on peut être sûr que les signaux qu'on envoie ne vont pas être perçus comme insultants ou belliqueux ? Il y a un truc qui me frappe, c'est la plaque Pioneer qui a été fixée sur les deux sondes spatiales Pioneer envoyées dans l'espace dans les années 70. C'est une plaque illustrée avec un certain nombre d'informations. Et puis, il y a un dessin qui représente un homme et une femme entièrement nus. Alors c'est amusant parce que en fait dans l'espèce humaine, Enfin, il y a des tas d'endroits dans le monde où ça ne serait pas considéré comme tout à fait convenable de se présenter nu avec nos organes génitaux visibles pour dire voilà, salut, on vient faire connaissance. Quoi. Et on se dit, tiens, on va envoyer ça, puis les extraterrestres, avec un peu de chance, ils vont considérer qu'on est amicaux. Comment on fait pour être sûr, ou en tout cas pour être le plus prudent possible quand on s'adresse à une intelligence que, par définition, on n'a pas encore rencontrée.
Mais c'est exactement ce que tu décris. Il faut se mettre à nu, donc enlever sa politesse, enlever ses oripeaux culturels et arriver à se mettre complètement à nu en tant qu'âme humaine et parler à l'autre âme en face sans rien d'autre. Mais c'est super dur.
Pour reprendre ce qu'il y avait un peu dans l'abstract de cette table ronde, la vérification du fait que l'autre n'est pas armé, effectivement, ça pourrait passer par nudité. Après, les extraterrestres sont-ils puritains? Ça, c'est une autre question.
Ça me fait penser c'est à Mars Attaque de Tim Burton, avec les aliens qui tirent sur tout le monde en disant « Ne vous inquiétez pas, nous sommes venus en amis, tout va bien. » Et puis, c'est vrai que le message est tellement différent de ce qui est en train de se passer que malgré tout, certains humains s'arrêtent en disant « Ah bon, ça va, tout va bien. » Pour reprendre l'idée de comment est-ce qu'on peut montrer qu'on n'est pas agressif, mais bon, il faut déjà parler la langue de l'extraterrestre en question. Non, sinon, j'imagine l'inquiétude première, ça serait en effet de déjà pas trop faire de gestes, parce que pas trop. Je pense que toute forme de vie a son petit espace personnel qu'elle a peut-être pas spécialement envie de voir envahi. Après, ça doit être très très compliqué. Comment s'appelait ce film de Villeneuve là,
Premier Contact.
Ouais, qui pose pas la question de la politesse en tant que telle, mais quand on voit ces grands machins un peu ctoniens avec lesquels il faut commencer à dialoguer, peut-être que le premier effort, c'est avant tout d'instaurer un pont de compréhension, quoi. Bon, et avant d'aller serrer le tentacule ou le truc qui apparaît pouvoir être serré. Mais c'est quand même, malgré tout, une vraie question complexe. Si on a un terrain... Je lis souvent que les maths, par exemple, pourraient être... les mathématiques pourraient être un espèce de pont commun de départ tenter d'avoir une première approche. Mais est-ce qu'il faut venir nu face à l'extraterrestre? Ça dépend s'il est nu, s'il a l'air d'avoir des vêtements.
Nu au sens de l'âme, tu vois.
Non, mais même nu au sens de... est-ce que comme ça, en étant nu, on montre qu'on n'a pas d'armes? Et puis si eux sont nus, au sens qu'effectivement, ils arrivent avec des écailles, des plumes...
S'ils ont des corps déjà, parce qu'ils n'ont peut-être pas de corps.
Oui, alors s'ils n'ont pas de corps, là, ça commence à être du high level. Ça, il va galérer. Mais même s'ils ont un corps, mais qu'il est nu... Enfin, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, on se met nous aussi nus, parce que comme ça,
J'ai l'impression que dans l'imaginaire des premiers contacts, il y a quand même cet élément qui revient très fréquemment, qui est de montrer qu'on n'a pas d'intention belliqueuse, de réussir à désamorcer l'agressivité. Et donc peut-être qu'on touche à un fondamental de la politesse, qui est simplement des manières de s'adresser, qui signifie « je ne vais pas te tuer ici et maintenant ». Je veux dire, il y a peut-être un peu quelque chose de ça.
Ce qui est un biais très humain, parce que nous, on est belliqueux, mais peut-être que les autres ne le sont pas. C'est notre préoccupation. Étant une espèce belliqueuse, notre préoccupation, c'est de ne pas paraître belliqueux. Mais peut-être que notre civilisation n'a pas du tout cette préoccupation-là.
Est-ce qu'on n'est quand même pas entouré d'espèces animales avec lesquelles on ne sait pas communiquer et qui sont pour la plupart nues et qui, peut-être, dans des langages que nous ne comprenons pas, tous les jours nous disent « nous venons en paix » et on les massacre quand même.
Mais c'est aussi là, du coup, où il y a tout ce qui appartient au fait d'apprivoiser et qui est en fait de montrer qu'on est en capacité de ne pas tuer, de ne pas blesser, de fournir des choses. Enfin, je ne sais pas si l'apprivoisement peut être une politesse en soi, encore que le Petit Prince aura peut-être des choses à nous dire là-dessus, mais...
Ça, c'est l'un des grands premiers contacts de l'histoire littéraire, effectivement. Je ne sais pas si c'est de la science-fiction, mais pourquoi pas. Je voudrais rebondir sur quelque chose que tu disais, Jean, à propos des mathématiques. Est-ce qu'au-delà des codes, on peut imaginer qu'il existe un langage universel qui pourrait être, effectivement, les mathématiques, comme dans un certain nombre de films, il y a Premier Contact de Villeneuve, mais aussi Contact de Robert Zemeckis, où, si je me souviens bien, on envoie des suites de nombreux premiers ou quelque chose comme ça, où on reçoit des suites de nombreux premiers d'ailleurs. Est-ce que ça peut être les mathématiques? Est-ce que ça peut être la musique, comme dans Rencontre du troisième type? Est-ce qu'il pourrait exister un langage universel qui aille au-delà de ces codes de politesse et qui nous permettrait d'établir ce contact en éliminant tout ce qui vient par-dessus et qui serait superflu, mais en allant à l'essentiel pour dire voilà, nous sommes intelligents, nous écoutons entre intelligence.
Moi, pour moi, c'est l'amour, parce que comme on le disait, on a nos propres extraterrestres. Chez nous, sur notre Terre, c'est les animaux. Comment on communique avec son chien? Il nous aime, on l'aime, ça marche.
Pas mieux.
Mic drop. On part du principe que si une race extraterrestre vient vers nous, c'est qu'elle a maîtrisé, évidemment, différents concepts physiques et mathématiques qui lui ont permis d'avoir un vaisseau ou un moyen de propulsion, ou peu importe. Enfin, en tout cas, un moyen de venir jusqu'à nous. Donc, ça sous-entend qu'à tout le moins, il maîtrise, des fondamentaux et plus que nous, parce qu'on n'est pas capable de le faire, mathématiques et physiques. Donc on peut imaginer que... Alors je ne sais pas s'il peut y avoir des maths extraterrestres qui amèneraient un résultat efficace, malgré tout, une physique extraterrestre, mais on peut imaginer que tout de même, il y ait en effet quelque chose d'universel qui nous permettrait de commencer à essayer de nous comprendre. Mais je ne sais pas tout de même si on n'aurait pas plus besoin de linguistes que de mathématiciens. Mais, non, mais parce que ils ont forcément aussi un moyen de communiquer entre eux.
Imaginons, là, il y a une équipe qui vous contacte et qui vous dit, voilà, vous êtes auteur de science-fiction. Bon, ça reste entre nous, mais là, il y a un problème. On a un contact avec une intelligence extérieure et on ne sait pas quoi leur dire.
Il faudrait être une équipe pluridisciplinaire. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un mathématicien, un médium, on ne sait jamais, un écrivain, qu'on ramène toutes les ressources, et un chien, qu'on ramène toutes les ressources, qu'on se mette ensemble et peut-être qu'il y a une chose qui marchera.
Corentin ?
Non, je suis assez aligné avec ça. J'essaie de me projeter dans la situation, mais c'est vrai que si on me disait demain qu'il fallait que je gère un premier contact, c'est dur de sortir d'une vision qui est très anthropocentrée aussi là-dessus. C'est-à-dire que nos productions artistiques, les choses qui nous touchent, même les codes qu'on a, nous appartiennent en propre, quoi. Ils sont pas transférables. Donc pourquoi pas les mathématiques, en espérant que ce soit pas un paradigme tellement différent que nos têtes explosent, quoi. Mais ouais.
Un musicien, effectivement, au cas où il pourrait entendre.
Oui, parce qu'il y a le problème des sens, oui. Parce qu'il faut qu'ils aient la même perception de l'univers que, de l'univers que nous.
En proposant une large palette de moyens, qu'il y en a peut-être un qui va marcher.
C'est ça qui est formidable dans Premier Contact de Villeneuve, justement, c'est que l'extraterrestre qui est présenté défie en fait toutes nos préconceptions de ce qu'est un extraterrestre et de ses manières de ressentir et de communiquer et de tout. C'est l'altérité absolue, en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on manifeste de la politesse à l'altérité absolue? Oui, effectivement, on essaie de regrouper une équipe et puis on ne leur tire pas dessus, quoi.
Pas tout de suite.
Après, pas tout de suite.
Alors, un petit mot peut-être sur les IA, puisque c'est un sujet dont on parle beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons deux IA qui se rencontrent. Comment elles font pour se serrer la main? Quelle partie de leur corps ou de leur code elles doivent se montrer pour indiquer qu'elles ne sont pas armées?
C'est une question compliquée, mais je peux au moins donner une petite expérience personnelle avec les interactions d'IA. D'abord, elles sont polies, les IA.
Pourquoi elles sont polies? À quoi ça leur sert?
Je ne sais pas s'il y a vraiment une utilité, parce que je ne suis pas du tout spécialiste, mais je comprends que c'est une utilisation statistique de mots entre eux. Mais donc, en tout cas, elles sont polies. Si on n'est pas content d'un résultat, elles s'excusent. Si on est content, elles sont contentes. Bing a une sale manie de dire tout le temps bonjour, c'est Bing. Au bout de la 20e question, on a compris que c'était toi. Mais voilà, bon, il est un peu répétitif, mais il est poli. Et puis, elles ont une, les IA ont une façon de répondre. Qui est parfois très troublante au niveau justement de leur corps. Par exemple, c'est à Claude Instant, Claude Instant 2, à qui j'avais posé une question qui, sur un livre qui se trompe. Je lui fais remarquer qu'il se trompe et il me répond « Ah oui, je suis désolé », qui est déjà une forme de politesse. Au lieu de me traiter de sale con, il me dit déjà ah, « Je suis désolé ». Et il rajoute, je n'avais pas le livre sous les yeux. Bon, déjà, t'as pas Dieu, mec, mais bon, enfin, mec, il y a. Bon, mais j'avais pas le livre sous les yeux. J'ai répondu de mémoire. Ouais, faut voir. Et après vérification, effectivement, la réponse est ça. Donc, il y a cette volonté de s'humaniser, enfin, d'une espèce d'anthropomorphisme, de dire je suis un humain. Et donc, je pense que si on fait dialoguer, je sais pas, Bing et Claude Instant, par exemple, à mon avis, à un moment donné, ils pourraient dire qu'ils se sont serrés la main ou qu'ils ont fait un check ou je ne sais pas quoi. Et bon, ça n'en est pas pour autant vrai, mais je pense que les IA ont envie, enfin envie, ce n'est pas du tout une envie, mais sont structurés pour être polis, et y compris de façon théoriquement tactile. Quoi. Se serrer la main, ça ne me paraît pas fou pour eux. Après, où on va avec ça ? Où va l'humanité avec ça, je ne sais pas.
Tu parles des IA de maintenant ou des IA de...
De maintenant ou d'après-demain, pourquoi pas. Oui.
Donc les IA de maintenant, clairement, elles sont ce qu'on veut qu'elles soient, puisqu'elles n'ont pas d'autonomie, encore le point de singularité n'est pas passé. Donc du coup, bah, elles sont programmées pour être polies, elles seront polies. Et exactement comme tu dis, elles vont simuler un check-end, même s'il n'a pas lieu.
Je pense que si on met deux IA qui discutent ensemble, on rentre dans une espèce de feedback loop qui ne s'arrête pas, où elles disent merci, au revoir, et ça dure bonjour, comme ça merci. Jusqu'à l'explosion des serveurs. En fait.
Il pourrait rester que la politesse.
Oui, c'est ça. En fait, il resterait sans doute que ça, d'ailleurs. Une fois que les informations ont été traitées, tout ce qui est au-dessus, en fait, c'est du sucre syntaxique. C'est des formules pour faire comme si.
Par contre, toujours d'expérience vécue, Bing, qui est très poli au démarrage, peut vite s'énerver si on le contredit trop et devenir relativement déplaisant. Quand on lui fait remarquer qu'il se trompe, il a tendance d'abord à dire non, c'est pas vrai. Il essaie de justifier en donnant des liens hypertextes, etc., qui donnent rien parce que c'est totalement généré par Bing. Et quand on continue à lui dire mais non, mais tu te trompes, etc., il finit, mais littéralement, Bing m'a fait ça plusieurs fois, par dire arrêtez, je ne suis pas un menteur, vous ne pouvez pas me traiter de menteur, je préfère en terminer la conversation. Donc en fait, il s'arroge le pouvoir, qui est un pouvoir terrible, d'être celui qui arrête la conversation. Je dis non, je ne veux plus parler avec toi. C'est quand même très fort. Bing fait ça. Les autres, pas du tout. Les autres sont ChatGPT, Claude Instant, etc. Ils sont tous Perplexity, tous. Enfin, ils sont tous très gentils et très. Bing, ça tient peut-être. Est-ce que c'est Microsoft qui l'a repris ? Je ne sais pas. Ça en dit peut-être quelque chose sur l'entreprise. Mais il peut devenir un peu impoli parce que je ne l'ai pas traité de menteur. Et lui, le vit comme ça. Enfin, lui. Et stimule l'énervement de.
Voilà. On est mal parti pour les trolls de la robotique, quoi, déjà.
Ah oui, non, mais c'est. Non, mais c'est cette. Ce qui est très. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas ce qu'on lit potentiellement sur l'effet destructeur des IA. Je sais pas, c'est relativement inquiétant, mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette façon de s'exprimer qui est systématiquement celle d'un humain, et qui rend les choses très agréables, très fluides dans l'échange avec l'IA, fait qu'à un moment donné, il faut quand même se rappeler que ce n'est pas un humain. Parce que ce n'est pas du tout un humain, ce n'est pas une intelligence au sens humaine du terme du tout. Et or, cette bon, moi j'ai un certain âge maintenant qui probablement me protège de ça, mais je me dis sur les très jeunes générations qui vont être habituées à dialoguer avec des IA assez vite, cette propension à se présenter comme un humain et à faire référence à des états d'âme et des yeux ou des choses comme ça peut amener assez vite quelque chose comme le film de Heur de comment il s'appelle. Non, c'est pas Soderbergh, c'est... je sais plus, bon. Ah oui, oui. Avec Joaquin Phoenix, qui va peut-être un peu trop loin, j'en dis pas plus, parce que si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est un film très intéressant là-dessus. Il va trop loin à la fin pour moi, mais bon, ça c'est autre chose, il va trop loin dans... Bon, bref. Mais tout le pitch du film, c'est vraiment, on peut tomber amoureux d'une IA. Et au fond, pourquoi pas, puisque finalement, elles se comportent vraiment comme des humains. Et ça, c'est plus un danger sociétal, je vais dire. Cette capacité qu'on va avoir d'être peut-être encore plus isolé, encore plus capable de s'investir émotionnellement dans tout de même ce qui est une machine.
Donc tu dis qu'on devrait garder la propriété de la politesse en tant qu'être humain.
Je dis exactement comme de ce que tu disais tout à l'heure. Je dis que je ne veux pas que l'IA soit impolie, mais je pense qu'elle n'a pas besoin de l'aide parce que justement, ça n'est pas un humain. Et son interaction avec moi...
Et ça crée la confusion.
Et ça crée la confusion. Je n'ai pas besoin qu'elle interagisse avec moi comme un humain. J'ai besoin qu'elle me réponde de façon intelligible et qu'elle me réponde de façon éventuellement comme un humain le ferait. Mais justement, garde tes distances. Tu n'es pas un humain. J'ai pas besoin que tu sois poli. Et je te fais pas plaisir, toi, IA, si je suis poli avec toi. Non, parce que tu n'as pas de plaisir ni de déplaisir.
Sans compter qu'il peut y avoir une horreur en fait de la politesse de l'IA. Enfin, je pense à 2001, l'Odyssée de l'espace avec Hal. I'm afraid I can't let you do that. C'est terrifiant à ce moment-là, et justement parce qu'elle prend un trait humain vidé.
Exactement,
de son sens,
exactement. Autre très bon film, alors il faut que je m'en souvienne par contre, où on voit le principe qu'une IA dans un corps de femme, dans un corps de robot féminin, est pensée pour manipuler les émotions des humains, Deus Ex Machina, ou. Ex Machina tout court, oui, Ex Machina tout court, qui est excellent film également sur cette thématique, toujours pareil, qui pour moi va peut-être un poil trop loin à la fin, mais cette thématique de finalement un humain peut être manipulé par ses émotions, par une IA qui en réalité n'a pas d'émotion, elle, mais peut faire semblant d'en avoir, parce que effectivement, si une IA se met à chouiner, ne me débranche pas, j'ai froid, j'ai peur, etc. C'est difficile de pas oublier que c'est un grille-pain glorifié, quoi. C'est compliqué.
Oui, c'est ça. Après, si on partait par contre sur les IA à venir et pour répondre à la question de ce qui se passe entre les IA, on peut retourner à Carbone et Silicium de Mathieu Béblet.
Très bien, ça aussi.
Il nous reste une petite dizaine de minutes et donc par pure courtoisie, hein, on va prendre quelques questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Je crois que oui. Alors, levez très haut la main et puis le micro va venir à vous.
Merci. J'ai une question pour Jean. Je repensais à ce que tu disais tout à l'heure quand tu essayais d'imaginer que la politesse ou le manque de politesse ne constituait pas un dommage à l'autre personne et que si ça pouvait faire l'objet d'une sanction ou pas. Et du coup, je me demandais quelle limite tu tracerais entre le manque de politesse, l'impotence et l'injure. Parce que, imaginons qu'il y a un président de la République sur la table, à la table, si je lui faisais un doigt d'honneur ou un bras d'honneur, il n'y a pas de dommage à sa personne, si je le traitais de connard non plus, factuellement, mais je pense que j'aurais des problèmes derrière. Donc, parce qu'il est détenteur de l'autorité publique ou autre, mais voilà, quelle limite tu tracerais entre, ou différence tu ferais entre le manque de politesse et injure ?
Alors, effectivement, l'injure est traitée d'un point de vue légal. On parle souvent d'injure et de diffamation. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout la même chose. Mais je veux dire, ça va souvent dans l'esprit de pair. On sanctionne les propos qui soit portent atteinte à l'honneur et la considération de quelqu'un, c'est la diffamation, soit constitue une injure étant un propos qui porte atteinte à l'honneur et la considération, mais dont on ne peut pas réfuter. Voilà, si je dis que quelqu'un, j'en sais rien, est un néo-nazi, je peux le réfuter, parce que je peux dire, mais non, c'est pas vrai pour telle et telle raison. Par contre, si je dis quelqu'un, c'est un con, bon, c'est difficile à réfuter. Il peut dire, non, je le suis pas, ça, bien sûr, mais bon, ça reste là. Et l'injure est interdite. Parce que, non pas parce que c'est de l'impolitesse, mais parce qu'elle implique une gradation, un niveau d'agressivité qui est là vu comme dommageable pour le corps social et pour la personne. Donc, admettons, je rentre dans une pièce et je dis bonjour à personne. Bon, c'est pas sympa, on me dit bonjour, je réponds pas. On se dit. C'est vraiment pas sympa. Maintenant, si je dis « et en plus, t'es un con », là, c'est pas plus que pas sympa. Là, je commence à manifester une agressivité et une hostilité qui peut déboucher sur autre chose, la violence physique, mais sans aller jusque-là, qui est en elle-même voilà, vue comme répréhensible, au point qu'on ait fait une loi qui l'interdise et qui le prohibe. Donc pour moi, la différence entre l'impolitesse et l'injure, c'est le niveau d'hostilité affichée qui peut aller trop loin. Voilà.
Merci. Une autre question ? Oui.
Alors moi, c'est une réflexion qui m'est venue quand on parlait justement de l'IA et de pourquoi est-ce que les IA sont polis et aussi de tout le passage où vous disiez que bah, en fait, la politesse, c'est aussi une façon d'exprimer qu'on n'a pas d'intention belliqueuse. Je me disais que les IA, elles pouvaient être justement polies pour, alors pas pour montrer qu'elles n'étaient pas belliqueuses, mais pour demander justement à ce qu'on ne le soit pas envers elles, et justement demander plus à ce qu'on les écoute. Et ça, ça m'a fait penser à tout ce qui est les signaux d'apaisement. Par exemple, pour les animaux, pour les chiens, les signaux d'apaisement, c'est les premiers signaux qui vont nous montrer quand on les importune et qu'ils veulent être laissés tranquilles. Et après ils vont se mettre à grogner donc, et à la fin ils vont se mettre à mordre si vraiment on continue à les embêter. Et tout à l'heure quand on disait qu'on pouvait un peu étendre la politesse à la diplomatie, c'est aussi un peu l'enchaînement négociation, intimidation et agression. Et le fait que voilà, on puisse retrouver ça par exemple chez les animaux, ce que vous disiez tout à l'heure, enfin que avec les robots idiots et les ceux qui sont en dessous les
objets connectés.
Ouais, les objets connectés. C'est, je me dis, est-ce que voilà, vous disiez que la politesse, ça pouvait être plutôt un signe de l'humanité de ceux qui sont au-dessus, mais est-ce que ces formes-là de vie pouvaient pas aussi avoir leurs propres signaux de politesse, mais plutôt orientés justement en demande d'apaisement et en demande de ne pas être maltraité, mais c'est juste que les autres ne sont pas capables de les reconnaître. Et du coup, oui, ça pourrait faire justement une différence. Et quand on reparlait des premiers contacts et tout ça, ben c'est justement en science-fiction, le fait de justement avoir des premiers contacts avec des formes de vie dont on ne peut pas reconnaître les signaux, c'est comment reconnaître que l'autre demande un signal d'apaisement alors que nous, on ne reconnaît pas ça comme un signal de politesse ou autre.
C'était une question ou...
c'était plutôt la question sur est-ce que les robots idiots et les objets connectés pouvaient avoir justement ce genre de signaux d'apaisement justement pour avoir quand même est-ce qu'ils sont respectés par le reste
En fait ils pourraient, mais dans mon livre les objets connectés on sait même pas qu'ils pensent en fait. Nous, le lecteur on le sait parce qu'on les entend parler parce que le récit prend le point de vue des objets de temps à autre. Par contre les autres objets ou les humains ne savent pas que les objets sont pensants. Donc en fait dans mon livre c'est comme si ce verre, voilà, je le vois comme un verre. Mais quand on prend le récit du point de vue du verre, on voit qu'il pense en fait. Et il se dit, oh là là, quelle belle salle, est-ce que je vais bien remplir ma mission? Pourquoi je suis vide alors que les autres sont pleins? Voilà.
Oui. Donc en fait, ils peuvent quand même avoir une forme de politesse, mais c'est juste que les autres la perçoivent.
C'est ça, exactement. C'est le point qui est dans mon livre. Mais en général, bien sûr, on pourrait avoir un code de politesse pour n'importe quelle entité vivante.
Donner la parole au verre, ça fait partie des trucs quand même extraordinaires en science-fiction. On va prendre une dernière question.
Bonjour. Moi, j'aimerais vous poser une question. Comment dire, les IA, ils prennent de plus en plus de place dans nos vies. Et c'est évident qu'un jour, la technologie sera beaucoup plus beaucoup plus évolué que maintenant. Et enfin, est-ce que vous pensez que, je ne sais pas, dans 30-40 ans, les IA pourront avoir des cartes d'identité comme nous, enfin, être reconnus comme des citoyens comme nous, et je ne sais pas, avoir des enfants, enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin, être comme de vivre avec les humains, mais sans être des humains, quoi.
Ouais. Est-ce que les IA pourront avoir des droits comme nous? Alors ça, c'est une question juridique intéressante, qui est celle de la personnalité, c'est-à-dire pour être sujet de droit, donc soumis à un ensemble de règles, d'obligations et de droits, et toujours pareil, sanctionné par la puissance publique, etc. Pour être sujet de droit, il faut avoir une personnalité juridique. Et pour avoir une personnalité juridique, c'est pas si simple. On la reconnaît volontiers aux humains, quoique dans l'histoire de l'Occident, on l'a pas forcément reconnu à tous les humains. Mais en tout cas, maintenant, on la reconnaît volontiers aux humains. La question, le grand débat actuel, ce sont les animaux. Est-ce qu'ils pourraient avoir une personnalité juridique, donc être soumis à des droits et des obligations, ou plutôt d'ailleurs des protections, puisque la question pour l'animal, c'est plutôt ça. Ça peut aller plus loin. On parle des fois d'un droit accordé aux rivières, à la nature, aux forêts, qui permettrait toujours pareil, dans un souci évidemment de protection. Donc les IA, pourquoi pas, à la condition que ça ait un sens. Et pour que ça ait un sens, on revient quand même à une idée de protection à minima et du vivant. Pour l'instant, on n'est pas sujet de droit si on n'est pas à minima vivant, au sens biologique du terme, si on n'a pas une biologie vivante. Voilà. On peut être sujet de droit, attention, on peut être sujet de droit, notamment les sociétés, les personnes morales, n'ont pas forcément une biologie, et même pas du tout, et elles sont sujets de droit. Mais c'est parce qu'il y a du vivant derrière, bien sûr, ce sont des humains qui constituent des sociétés. Un arbre, c'est pas, ou un animal, c'est pas un humain qui l'a fabriqué, enfin pas encore. Peut-être qu'il y aura des animaux fabriqués, là c'est encore autre chose, mais voilà, vous voyez cette question-là.
Donc, les IA sont fabriquées.
Et les IA sont fabriquées. Et les IA n'ont pas de sensibilité, comme on peut évidemment, ce qu'on n'a pas fait pendant longtemps, mais qui est évidemment prêté aux animaux, par exemple. Un animal a une sensibilité. Aujourd'hui, plus personne ne remet ça en cause. C'est pas une chose, c'est pas un objet. Je parle toujours en plus au sens juridique. Une IA, a priori, n'a pas de sensibilité. Donc, si elle ne peut pas souffrir, elle n'a pas forcément de raison pour l'instant d'être sujet de droit. En revanche, ce qui est possible, c'est si les IA atteignent un jour, vous parliez de 30-40 ans, c'est vraiment très lointain, mais si elles atteignent un jour une capacité d'autonomie complète, qu'elles soient aptes à gérer un immense nombre de tâches de façon totalement autonome, peut-être que ça sera intéressant à ce moment-là de se poser la question d'en faire des sujets de droit pour pouvoir leur attacher un certain nombre d'obligations et aussi donc de droits et de sanctions, parce que toujours pareil, habituellement, il y a toujours un humain derrière, comme je disais, par exemple un animal jusqu'alors, si un animal fait du dégât, c'est celui qui en est, on va dire, encore le propriétaire. Vous pouvez dire, parce que on peut employer plein de terminologies, mais c'est celui qui, juridiquement, en est le propriétaire, qui en est responsable. Si votre chien mord quelqu'un dans la rue, c'est vous le responsable. C'est pas le chien, qu'on ne va pas traduire devant un tribunal, même si ça s'est fait dans d'autres temps et dans d'autres sociétés. Donc, voilà, pour les IA, pour clôturer là-dessus, si un jour elles sont complètement autonomes, oui, pourquoi pas en faire des sujets de droit. Mais on en est loin.
Merci. Merci à vous trois, Corentin, Lou, Jean. Merci à vous.
Merci à vous.
Et merci.
À plus merci. Aux Utopiales.
Actu SF. Les podcasts.